un plaisir d'être ici et de venir à Paris et de parler d'ouvrages qui, au moins, ont contribué à ma formation et à penser et à faire évoluer ma pensée et de retrouver des amis. Donc, notre séance aujourd'hui s'intitule « Nature versus patrimoine » et peut-être que démocratiquement, on a discuté entre nous, on est peut-être plus que nature versus patrimoine, on est aussi dans rural ou campagne versus patrimoine. Donc, voilà, c'est pour vous donner d'entrée le jeu un petit peu comment on va jouer là-dessus. Avant de vous présenter peut-être les quatre intervenants et les trois ouvrages, je pensais vous dire un petit peu comment on va dérouler les choses avec deux questions que je poserai à chaque auteur de livre. Et puis ensuite, des questions plutôt thématiques, des thèmes qui traversent les trois ouvrages et pour lesquels l'ensemble des auteurs présents interviendra et pour lesquels vous pourrez peut-être poser des questions si vous en avez. Et puis on finira par une question synthèse-ouverture à chaque groupe d'auteurs. Voilà comment ça va se dérouler. Donc, ces trois ouvrages hein, qui s'intitulent donc par ordre chronologique de parution, Vers patrimoine, la constitution d'un nouveau domaine patrimonial par Françoise Dupost, qui est paru en janvier 1994. Ensuite, on a Campagne de tous nos désirs, qui est un ouvrage collectif. Qui a été co-dirigé par Michel Rothenberg, André Micou, Laurence Bérard, Philippe Marchenet, pour lesquels on a deux co-directeurs aujourd'hui, Michel Rothenberg, André Micou. Et puis, En son jardin, une ethnologie du fleurissement de Martine. Alors, sur ces ouvrages, qui est sorti lui en 2011, et Campagne de tous nos désirs au début des années 2000. Donc on se situe année 1990 en fait, et c'est une période qui est très très importante, de tournant sur lesquels on va revenir, mais c'est une période aussi importante parce que on a diverses lois qui vont aussi impacter, ou en tout cas avoir des effets sur les processus de patrimonialisation qui sont analysés dans les trois ouvrages. Alors, ce n'est pas du tout exhaustif, je vous cite quelques repères chronologiques, quelques éléments de loi. Je pense notamment à la loi paysage de 1993, qui a joué un rôle important sur ce volet nature versus patrimoine, mais qui aussi consacre un acteur important de la patrimonialisation des PNR, en tout cas le redonne des missions. À ce moment-là. On peut évoquer aussi peut-être, parce que moi je suis plus produit de terroir, donc je ne vais pas manquer de vous évoquer la réforme des appellations d'origine de 1990 avec l'ensemble des produits d'appellation d'origine qui sont désormais gérés par l'Institut National des Appellations d'Origine et avec une reconnaissance en 1992 de la notion d'appellation d'origine par l'Union européenne après les accords de Maastricht, donc qui sont un moment aussi important de réflexion. Et puis, bien entendu, dans ces années, un rapport important pour le patrimoine, le rapport qui va pour une politique culturelle du patrimoine rural, qui est sorti en 1994 à la demande du ministre Jacques Toubon. Dans cette période, on a aussi un renouvellement, ce qu'on appelle des politiques d'aménagement du territoire et de notamment avec la loi dite Pasqua sur instaurant les pays donc, et une attention renouvelée de la DATAR sur l'espace rural, le développement local. Et je pense que dans ce contexte, on a aussi les effets de la décentralisation des lois 82-83 et une forme d'institutionnalisation du développement local qui va jouer aussi beaucoup sur ce mouvement de patrimonialisation. Le patrimoine reconnu aussi par des instances comme la DATAR avec la création des PEP, des pôles d'économie du patrimoine en 95, je pense que c'est issu du SIAT, de 1995. Voilà, vous voyez un contexte assez important en termes législatifs qui va aussi avoir des effets. Donc, sur cet ouvrage, donc, je vais vous présenter quand même les auteurs présents. Alors, on continue par ordre chronologique de parution.
Entre ordre d'ancienneté.
De chronologique de parution de l'ouvrage.
Ça recoupe.
Donc, Françoise Dubos, qui est historienne, anthropologue et ethnologue.
Voilà, c'est ça. Hein. Un produit interdisciplinaire. Impure.
Et qui a été directrice de recherche au CNRS et animatrice de séminaires sur les campagnes, encore aujourd'hui à l'EHESS.
À l'EHESS, qui a été ma mise en
œuvre. Voilà. Ensuite, faire comme ça. André Micou, qui est donc sociologue, qui était directeur de recherche au CNRS, auteur de plusieurs ouvrages collectifs aussi, dont Campagne de tous nos désirs, mais aussi Le sauvage et le domestique, qui est un numéro spécial d'études rurales, qui a travaillé aussi sur les hauts lieux, qui a fait référence, et beaucoup travaillé sur et avec les parcs naturels régionaux. Et a écrit des articles qui s'intitulent par exemple « Campagne, espace public, patrimonialisation du vivant ». Donc on est bien au cœur de cette thématique. Et puis Michel Rothenberg, qui est professeur d'anthropologie à Saint-Étienne, de sociologie à Saint-Étienne, donc dans le... qui a été aussi ethnologue régional en région Rhône-Alpes, donc je pense qu'il reviendra un moment sur ce parcours et ce qu'étaient les ethnologues régionales, qui a aussi beaucoup travaillé sur la question du patrimoine, y compris dans les espaces périurbains et presque aujourd'hui, je dirais, en glissant vers la ville, en étant partie du patrimoine rural et de l'architecture rurale de l'Ouest lyonnais. Et enfin, Martine Berg, qui est ethnologue au Conseil général du Lot et qui gère un musée, c'est ça ?
Je suis responsable des expositions temporaires.
Voilà. Et qui est chercheur associé au Centre Edgar Morin, qui a publié le livre issu d'une thèse d'ethnologie.
Donc soutenu ici même. Soutenu ici.
Voilà. Donc on a en fait deux ouvrages qui sont plus sur les jardins, vus sous des angles différents par un auteur individuel, et un ouvrage co-dirigé avec différentes facettes et dont les auteurs sont aussi d'origine pluridisciplinaire. Donc on n'en est pas seulement dans l'ethnologie. Voilà, mon intro était déjà longue. Donc la première question que je voulais vous poser, c'est en fait ces ouvrages ont été publiés et sont issus d'une réflexion à un moment où on se trouve à une forme de tournant de la question patrimoniale et en particulier peut-être du passage d'un patrimoine exceptionnel à un patrimoine ordinaire qui mérite dont le terme ordinaire mérite d'être discuté. C'est aussi à ce moment-là qu'on commence à parler de nature ordinaire, donc de cette nature qui ne vit pas sans les hommes mais qui est associée aux hommes et que les jardins illustrent. Alors, Françoise, peux-tu nous dire en quoi ton ouvrage, en quelques minutes très brèves, illustre ce passage, ou ne l'illustre pas, ou ne discute le nuance de patrimoine exceptionnel à patrimoine ordinaire?
Je pense qu'au moment où j'ai commencé à travailler sur ce patrimoine végétal, c'était le moment de l'expansion du domaine du patrimoine à toutes sortes de domaines qui n'étaient pas à l'origine considérés comme patrimoniaux et qui sont à ce moment-là en train de le devenir. Et c'est ça que j'ai plus spécialement étudié, c'est comment un objet, en l'occurrence je me suis intéressée au végétal, mais au végétal cultivé, donc aux plantes de jardin, comment se patrimonialise cet objet particulier qui n'était pas du tout considéré comme patrimoine avant et qui le devient. Et c'est la période de l'expansion maximum du patrimoine. Henri-Pierre Jeudy parle de patrimoine en folie. On parle de François Chauet parle aussi de la folie du patrimoine. On a l'impression que tout explose en patrimoine. Et ce qui était intéressant, c'est de suivre comment ça s'était passé. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai étudié comment s'étaient patrimonialisées les plantes de jardin. Et ça s'est fait avec un mouvement associatif absolument répandu dans toute la France. Et c'était ça qui était particulièrement intéressant, qui s'est manifesté à l'extérieur par une mise en scène assez étonnante qui était les expositions ventes de plantes. Alors il y a Courson, il y a Saint-Jean-de-Beauregard, ça a été les expositions pionnières, mais il y en a eu dans toute la France, et c'est ça qui était intéressant de comprendre. Et comme c'était la naissance d'un mouvement, c'était passionnant pour l'ethnologue que je suis d'aller voir les acteurs qui avaient contribué à cette naissance et à ce développement. Et donc j'ai étudié particulièrement tout ce mouvement associatif considérable qui a abouti à la patrimonialisation de ce qui était considéré comme des espèces en voie de disparition. Les expositions ventes de plantes, qui, la rareté, c'était le fait que les espèces étaient en train de disparaître. Sous la spécialisation pépiniériste et commerciale, la raréfaction de la palette végétale devenait un problème pour beaucoup de spécialistes. Et donc, en réaction, et ce qu'il y avait de tout à fait intéressant dans ce mouvement, c'est que ce sont des amateurs qui ont été pionniers et qui ont vraiment... qui se sont intéressés à un domaine, celui des plantes cultivées, des plantes de jardin, qui n'intéressait pas les savants, ni les savants du muséum qui ne s'intéressaient qu'aux plantes sauvages, ni les gens de l'INRA qui ne s'intéressaient qu'aux créations de variétés nouvelles. Donc ils ont occupé une place qui était à prendre, et c'est les amateurs qui l'ont pris. Et ça, c'était absolument passionnant de voir ça, que ce mouvement de patrimonialisation n'a pas été du tout comme c'était la tradition pour les monuments historiques, par exemple, des institutions en place et de l'État. C'est parti vraiment des amateurs. Je vais peut-être m'en tenir là pour ne pas...
Comment, après, passer de ces plantes rares, aussi, d'une certaine façon, de ce patrimoine presque exceptionnel, d'une certaine façon, au jardin, que tu dis être un objet aussi ethnologique ordinaire.
Oui, absolument. Sur les pas de Françoise Dubos, d'ailleurs, qui a inventé la notion de jardin ordinaire. Donc, je m'en suis saisie également pour travailler sur ces petits espaces qui ont cette qualité absolument incroyable de révéler beaucoup de choses dans très peu de mètres carrés. Et notamment, tout ce processus de requalification de la campagne qu'on voit apparaître dans les années 90 s'exprime, entre autres, au jardin, dans une catégorie que j'ai appelée, avec un oxymore, jardin au naturel. Et effectivement, ça a été un des types de jardins que j'ai étudié en milieu rural, dans un département donc très rural au centre de la France, où ces jardins-là cohabitaient avec d'autres types de jardins. Et ça m'a permis de faire une histoire du fleurissement, finalement, sur un siècle et demi, disons, où le jardin révèle à la fois tous ces moments, grands moments historiques, au travers des fleurs. Alors, j'ai notamment travaillé sur le jardin paysan, ce que j'ai appelé jardin paysan. En fait, ce n'est pas vraiment un jardin, parce que le jardin paysan, lui, il est uniquement potager. Si on dit jardin, du point de vue paysan, on réfère au potager. Mais je désigne quand même par là les alentours de la maison, qui sont entrepris par les femmes, le plus souvent, et lieu polyvalent où on trouve aussi bien la basse-cour que tout un certain nombre de sous-espaces imbriqués les uns dans les autres avec beaucoup de fonctions différentes et où les fleurs ont un rôle très particulier. Elles sont en fait le reflet d'un réseau féminin de ces villageoises qui se donnent, comme elles disent. Puisque là, on n'achète pas du tout les fleurs, on les achète pas, on se les donne exclusivement, on le sème, on garde, et on a en fait un fleurissement qui est à base de fleurs européennes. Donc soit qu'il procède de variétés anciennes, puisqu'à force d'acclimater dans son jardin les espèces, on a pu obtenir des vraies variétés locales avec une diversité biologique particulière. Soit ces espèces-là sont aussi transplantées depuis le champ, le fossé, le bord de champ, le bord de fossé. Donc voilà, elles sont soit données dans le réseau de femmes, soit transplantées. En tout cas, pas du tout acheté, comme ça va être le cas dans un autre type de jardin que j'ai étudié ensuite, que j'ai appelé le jardin fleuri, qui lui reflète une mise en ordre qui hérite du 19e, de l'hygiénisme et d'une certaine idée du progrès, où on va avoir un fleurissement à base d'annuelles aux couleurs vives. Alors c'est intéressant parce que cette palette-là, en fait, ce sont que des plantes exotiques qui ont été acclimatées par l'horticulture. Et le secteur horticole se développe à partir de la fin du 18e, mais c'est surtout au 19e que les grandes maisons travaillent la palette jusqu'à obtenir un nombre considérable d'espèces et de variétés. Ces variétés... Ah oui, pardon. Oui, je m'emporte. Bon, donc voilà. Donc, les horticoles, dans les années 1950 jusqu'à 90, c'est elles qui dominent, avec notamment les concours de fleurissement. Et puis ensuite, effectivement, le jardin naturel, qui rejoint tout à fait ce dont parlait Françoise sur la nouvelle façon de faire avec la nature en son jardin. Pardon, excusez-moi.
On va réaménager. André, donc cette nature ordinaire, comment elle traverse les lignes rapidement?
Donc, si j'ai bien compris, le thème, c'est nature versus patrimoine. Et moi, j'ai envie de dire, comme ça, je prends mes aises, mais que c'est du pareil au même. Parce que quand je dis, aujourd'hui, quand je dis nature, quand je dis patrimoine, je dis je procède de ce qui me précède. J'admets que je ne me suis pas créé, mais qu'il y a quelque chose avant moi, et j'en prends conscience. Et quand je dis nature aujourd'hui, je dis je dépends de ce qui m'entoure. C'est-à-dire que j'accepte que la nature n'est pas ce dont je peux disposer. Donc ces deux choses vont ensemble pour moi, et elles signent la fin de la modernité, dans laquelle je dis du passé, faisons table rase, et la nature, j'en fais mon affaire. Donc pour moi, enfin, j'ai étudié les deux choses en même temps. Bon, il n'est pas question de ce livre-là, mais... Alors, tu as parlé au début du contexte des années 90. C'est vrai, mais en même temps, je pense que... dans le travail d'historien, c'est de découper en fonction de ce qu'il veut montrer. Et moi, je pense que les années 90, c'est sûr, mais on peut remonter plus haut. Alors, pour répondre à ta question, j'en voudrais une preuve, c'est que les parcs naturels régionaux qui vont parler pour la première fois dans un texte officiel français en même temps patrimoine naturel et patrimoine culturel, article 1er du décret de 1967, les communes qui recèlent dans leur territoire d'un patrimoine naturel et culturel remarquable pourront demander à bénéficier du label de parc naturel régional. Donc c'est la première fois qu'on voit associer ces deux notions, patrimoine naturel et patrimoine culturel. Eh bien, ces parcs naturels régionaux, en 67, ils viennent juste après les lois Pisani qui ont inventé l'agriculture intensive d'aujourd'hui. Sauf que cette agriculture intensive ne pouvait pas être partout, et donc la DATAR a inventé les parcs naturels régionaux, et je dirais a inventé la campagne, alors j'arrive à ma campagne, c'est-à-dire un espace qui est à la fois naturel, résidentiel, tout ce qu'on voudra, mais qui n'est plus que agricole. Alors que les ingénieurs de la loi Pisani, c'était l'agriculture doit nourrir les Français pour pas cher et en quantité. Et l'agriculture, elle a bien réussi. Alors, j'en reviens à mes fleurs, j'en arrive à mes... jusqu'aux années 90, effectivement... Dans le milieu écologique, puisque c'est ça que j'ai étudié, on s'occupait des espèces remarquables, mais qu'on disait aussi patrimoniales. Hein. Mais c'était uniquement les espèces remarquables, et en gros, c'était les espèces de l'UICN, de l'Union internationale de la conservation de la nature, et qui étaient aussi les espèces en voie de disparition, mais sauvages. Tout à fait,
c'est ça.
Ils s'occupaient par là. Et peu à peu, avec les parcs naturels régionaux, eh bien, on a commencé à s'occuper de la nature ordinaire. C'est-à-dire que pour les parcs naturels régionaux, d'accord, ils avaient un patrimoine naturel remarquable, mais très vite, bon, il y avait effectivement les zones humides. Alors là, les zones humides, c'est le nirvana des écologistes. Donc, chaque fois qu'on parle zone humide, ils se mettent à genoux. Mais après, ça a été collines sèches, c'était... Voilà. Et donc, avec les parcs naturels régionaux, on est passé... à la protection de la nature ordinaire. Bon, on a commencé à dire qu'il fallait garder les haies, qu'il fallait... Bon, on les repart. Du coup, tout ce qu'avaient prévu les lois Pisani, le remembrement, tout ça, bon, est petit à petit remis en cause, parce que dans ces espaces-là, l'agriculture intensive n'était pas applicable. Voilà. Ouais. Ça y est, j'ai pas été trop long.
On peut dire aussi que... le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement n'étaient pas absolument d'accord
non,
sur la question.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire.
Carrément en contradiction.
Complètement en contradiction. Et c'est toujours la même chose, c'est toujours la bagarre. Ouais.
Alors, Michel, comment ça traduit aussi un contexte de patrimonialisation qui change et qui évolue avec la mission du patrimoine, notamment?
Alors, je voulais revenir sur la liste que j'ai sous les yeux des publications de la mission du patrimoine ethnologique, hein, les cahiers d'ethnologie de la France. Cet exemplaire est le numéro 16 de cette collection. Et dans les 15 numéros, dans les 15 bouquins qui précèdent, le mot patrimoine apparaît deux fois, publié par la mission du patrimoine ethnologique. Le premier, c'est Patrimoine en folie, d'Henri Pierre Jeudy, contre lesquels beaucoup d'entre nous se sommes élevés parce qu'il y avait une dramatisation de la question patrimoniale qui nous énervait un petit peu. Et puis, donc, l'ouvrage de Françoise, Vers patrimoine. La question que nous nous sommes posée, alors, André et moi, puis beaucoup d'autres, et dans le cadre de la mission du patrimoine ethnologique qui a lancé un appel d'offres sur les nouveaux usages de la campagne et du patrimoine, la question qu'on se posait, c'était de savoir comme le disait Françoise, qui fabrique, qu'est-ce qu'il y a derrière cette fabrique du patrimoine? C'est bien beau de dénoncer, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais comment ça marche? Qui fait quoi? Et donc l'idée qui était à l'origine de cet appel à projet, cet appel d'offre de recherche dont cet ouvrage est issu, c'était d'arriver à bien identifier sur le monde rural qui étaient les acteurs, entre les acteurs institutionnels, mais aussi les acteurs de terrain, les amateurs, les parcs, les agriculteurs, et l'ensemble de toute la chaîne de la production du patrimoine.
Merci. Alors, en fait, on voit avec cette évolution du patrimoine aussi un changement, et André, tu l'as un peu introduit, de la vision des campagnes. Et là, je vais me permettre mon petit regard de géographe. Par exemple, chez nous, chez les géographes, et en particulier les géographes ruralistes, dans les années 90, il y a des débats très importants sur qu'est-ce que le rural? Est-ce qu'il existe toujours, cette campagne? Et je pense notamment à la publication de l'ouvrage de Bernard Kayser qui s'appelle Renaissance rurale. Donc, avec le débat, c'est quoi ce nouveau rural qui arrive pour certains et d'autres tenant de la fin du rural, c'est-à-dire du rural traditionnel, ou en tout cas restant. Donc on est un petit peu aussi dans ces interrogations sur devenir. C'est le moment où on prend conscience de l'importance du renversement des courants migratoires. C'est la fin de l'exode rural et c'est le moment où les campagnes regagnent des habitants et donc deviennent, comme tu l'as dit André, multifonctionnelles. Alors comment ces ouvrages se situent bien dans ce contexte et comment l'un ou l'autre ou les deux vous pouvez discuter ce terme de campagne de tous nos désirs qui illustre cette transformation?
Je dirais que tout à l'heure j'ai fait une opposition déjà entre campagne et espace rural ou espace agricole, qui est plus un vocabulaire technocratique, en primaire, enfin, agricole, c'est champ d'agriculture. Et quand on dit campagne, on ouvre le champ et on va à sa campagne pour parler des résidences secondaires, mais on a des souvenirs campagne, etc. Donc on ouvre le champ pour dire à la campagne, ce n'est pas seulement un espace productif agricole. Et ce mouvement d'inversion du regard sur la campagne, pour moi, il a, comme tout à l'heure, il a des ancêtres déjà assez vieux. Il y a beaucoup d'associations, notamment celles qui se sont bagarrées pour créer des parcs naturels régionaux, Fonds Vives dans les Cévennes, Alpes de Lumière en Provence. Donc des gens
c'est 50-60.
Les années 60, des gens qui voyaient, je dirais, les dégâts de l'urbanisation et de l'industrialisation, et qui souhaitaient conserver quelque chose d'un mode de vie qui semblait des pratiques, etc. Je donnerai au passage ma définition de la patrimonialisation. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que dans les années 70, après 68, il y a eu les hippies, avant les néo-ruraux, et les hippies, pour moi, sont les premiers à employer le mot écologie. Enfin, non, écologie, c'était inventé en 1776. Mais c'était connu d'une poignée de spécialistes, du muséum, etc. À partir du moment où les hippies ont employé le mot écologie, ils ont introduit la question écologique telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, mais avant 70, il n'y avait pas de rubrique écologie dans les journaux, ni environnement. C'est bien eux qui ont introduit cette chose-là. Et donc, ils ont...
Ministère de l'Environnement, 1971.
Il faut voir. Hein. Donc, et autre chose, donc le mot écologie, le mot paysan aussi. Les travailleurs paysans, la confédération paysanne, enfin, je dirais, ce mot de paysan qui était péjoratif, qui est réapproprié, enfin, un phénomène qu'on connaît bien en sociologie, de retournement du stigmate, hein, black is beautiful, etc. Donc je suis fier d'être paysan, et paysan veut dire authenticité, veut dire c'est pas mettre au boulot le dos, je suis... Voilà, donc on a bien...
Liberté,
etc. On a ce moment-là de renversement. Donc comme vous disiez tout à l'heure, c'est un mouvement je dirais, qui vient de partout, aussi bien d'érudits locaux qui ont envie de refaire une histoire locale, montrer qu'elle a de l'intérêt. Si on veut, il y avait pour moi les monuments historiques, c'était la patrimonialisation des Français. Et avec le mouvement qu'on a connu dans ces années-là, c'est une patrimonialisation beaucoup plus locale, beaucoup plus régionale, beaucoup plus... Allez,
oui. C'est compliqué parce qu'on doit se partager le même temps de parole que nos deux camarades. Non, je suis obligé de...
Et que je suis bavard.
Non, simplement, je voulais, pour compléter ce que disait André, il y a une chose peut-être qu'il faut souligner, c'est qu'on s'aperçoit dans cette époque, et la campagne est un, ou la ruralité, le monde rural est un très bon terrain pour ça, que le patrimoine se pratique de tout un tas de façons, que le patrimoine se décline de tout un tas de manières. Donc ça va être à travers des fêtes, les fêtes de la transhumance, on l'a dit, à travers des produits, des produits de terroir, le champagne, le foie gras, mais aussi la réinvention de territoire. Et il y a un article très intéressant dans l'ouvrage sur le Mont Mézin, sur le Mézin, qui est une région qui était quasiment inconnue aux confins de l'Ardèche et de la Haute-Loire, du Velay et du Vivarais. Le Mont Mézin, qui est l'un des monts les plus hauts du Massif central, mais c'est une région très méconnue, dans laquelle une tradition de bœuf de Pâques avait existé jusque dans les années 60, où on engraissait les bœufs. Et à partir des années 90-2000, un mouvement associatif va tenter de réinventer cette agriculture locale. Et en réinventant cette tradition, ils vont lui donner un nouveau nom, le fin gras, qui va déboucher sur la création d'une AOC, la première viande que obtiendra une AOC quelques années plus tard, mais aussi à la réinvention d'un territoire. Et d'un territoire qui va accueillir des nouveaux habitants, qui va connaître une nouvelle dynamique, etc. Et là, on voit que le patrimoine est quelque chose qui va avoir véritablement, qui va être un levier pour la transformation des territoires ruraux. Alors, il y a tout un tas d'autres exemples, la fête de la transhumance en est un qui est très connu dans la Drôme, etc.
Les chaumiers dans le Vivarais.
Donc le patrimoine est quelque chose qui met en pratique également. Ce n'est pas simplement ce que tu dis, bien sûr, mais ça se décline dans des pratiques très diverses qui sont étudiées dans le bouquin.
Si je peux permettre, je dirais, pour la patrimonialisation, c'est le moment où un collectif humain qui prend conscience que il y a un moment de rupture et qu'il faut conserver, protéger un ensemble de biens, de valeurs pour conserver son identité dans le temps. Mais ça ne veut pas dire passéiste, ça veut dire, comme tu dis, réinventer ce qui fait qu'on est un collectif. Voilà, c'est retrouver ce qu'on a en commun et qu'on souhaite transmettre. Parce que le patrimoine, c'est transmettre.
Je ne peux pas m'empêcher, je dois compléter. Ouais. Excusez-moi. C'est aussi une projection. Donc le patrimoine, pour moi, c'est une projection. Donc c'est effectivement, on est engendré, mais on se projette vers quelque chose d'autre. S'il n'y a pas cette projection, il n'y a pas de patrimoine. Non, c'est une démarche pas futile.
Alors, moi, je vous poserai une question complémentaire, mais après, je rééquilibrerai la parole. Puisqu'il y a une partie de l'ouvrage qui s'appelle « La recomposition des rapports entre ville et campagne », j'ai un peu évoqué, et en fait, comment cette recomposition, elle réinterroge le titre de l'ouvrage, parce que vous ne l'avez pas complètement expliqué. Alors, je donne la parole à Michel, peut-être, pour que ce soit
plus campagne bref. On vient d'avoir un petit débat. Campagne de tous nos désirs, en fait, c'est André qui en est à l'origine. Voilà. Moi, je défends le sous-titre.
Patrimoine et nouveaux usages sociaux.
Voilà. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Mais il y avait dû avoir un compromis.
Voilà. En deux mots, peut-être, comment dans vos livres respectifs, ce changement dans les campagnes, vous l'avez vu ou senti? Peut-être Martine. À travers les types de jardins, habitants du rural.
À travers les jardins, à travers l'étude des concours de fleurissement, où en fait les organisateurs des concours sont obligés de changer leur grille parce que les jardins eux-mêmes deviennent différents de ce que les grilles proposent d'élire comme jardin, comme beau jardin. C'est-à-dire que le tournant naturaliste qu'ont pris les jardins dans les années 90 provient des jardiniers eux-mêmes. Donc ils veulent un jardin qui soit beaucoup plus proche de la nature, qui soit en lien avec le paysage. Pour ça, ils commandent dans des pépinières spécialisées des plantes qui s'approchent des spontanées, mais qui ne sont pas des spontanées, qui sont en fait des créations horticoles très sophistiquées. Hein. C'est pour ça que l'oxymore jardin naturel est intéressant. En tout cas, c'est dans ces lieux-là que s'élabore, donc par ce goût, mais je crois, Françoise, tu pourras en parler, parce que les amateurs, c'est ça aussi, voilà, c'est eux qui initient ce nouveau rapport à la nature. Et donc, oui, c'est des pratiques nouvelles qui vont faire changer les normes au niveau national. Le concours de fleurissement, le concours des villes et villages fleuris qui a été organisé par le ministère des Transports, puis du Tourisme, enfin il s'est un peu promené, a failli disparaître en 1993 parce que justement il proposait encore une vision très rigide et marquée par ces annuelles aux couleurs vives qui ont rempli nos ronds-points et nos devants de mairie et nos jardins jusqu'aux années 90. Et donc, effectivement, le concours a failli être...
À disparaître
Oui, ça a été très violent. Enfin, ouais. Mais c'est arrivé des pratiques elles-mêmes.
Moi, je pourrais revenir sur cette spécialisation à outrance et cette commercialisation avec une palette végétale qui était de plus en plus réduite, parce que la demande... porté sur des, pour les concours fleuris notamment, sur des espèces qui allaient tenir le coup tout le temps, qui n'étaient pas trop chères. Alors le géranium, le roi des balcons, il y avait les pétunias, il y avait, etc. Enfin, une palette qui était très réduite.
Ce sont les exotiques, en fait.
En fait des exotiques, voilà. Oui, mais qui ont été...
Ah oui, la palette du jardin fleuri, ce ne sont que des exotiques. Et qui sont arrivés donc après la conquête du Nouveau Monde, oui. Et travaillés par l'horticulture, qui appelait ça d'ailleurs des plantes de fond. Parce que c'était des plantes faciles à travailler. Et
qui duraient tous les temps.
Et dont le fleurissement était estival, à l'inverse des fleurs du jardin paysan, dont le fleurissement est uniquement printanier, puisque ce sont des fleurs européennes. Donc là, on avait trouvé la filière horticole qui a développé énormément les espèces au XXe, pour ensuite se consacrer à cette partie de la palette dite plante de fond, et ensuite, au moment de l'hémitrope et des hybrides, alors fermer complètement la diversité des espèces et des variétés pour n'avoir que quelques... spécimens variétaux issus de clonage et d'hybridation sur ces variétés exotiques. C'est pour ça qu'on a eu le marché envahi par ces plantes annuelles aux couleurs vives et que du coup, dans les années 80, on s'est rendu compte de l'appauvrissement de la palette, les paysagistes en premier, et les écologistes aussi.
Et les amateurs.
Et qu'il y a eu ce grand mouvement en réaction, finalement, pour retrouver la diversité végétale.
Et retrouver,
du coup, on a un nouveau modèle au jardin. Ouais. Jardin.
Ouais. Et retrouver une palette beaucoup plus vaste que celle qui s'était extrêmement réduite. C'est une réaction contre une raréfaction. Ouais. Il faut retrouver les espèces en voie de disparition. C'est là le lien avec le patrimoine. C'est que ces espèces avaient disparu des catalogues des pépiniéristes, on ne les trouvait plus. Et donc il y a eu tout ce mouvement... avec une manifestation, parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans les mouvements de patrimonialisation, c'est qu'il y a des mises en scène nouvelles. Et la mise en scène nouvelle qui avait été trouvée par les amateurs, c'était les fêtes des plantes. Alors il y a eu Courson et Saint-Jean-de-Bourgard, dont les Parisiens et l'Île-de-France a entendu parler. Mais ce qui est formidable, c'est que ça a eu lieu dans toute la France. Et je peux citer un exemple pour faire plaisir à nos amis de Rhône-Alpes, c'est l'exemple de la foire de Saint-Priest, qui a été créée de toutes pièces.
C'est une banlieue de Lyon.
C'est la banlieue
ouvrière.
La plus ouvrière de Lyon, et une animatrice d'un petit centre socioculturel qui s'appelait le centre socioculturel de la Carnière à Saint-Priest, une animatrice donc qui s'appelle Mathilde Luneven, qui est toujours là, proposé à son conseil d'administration de faire une exposition de plantes sur le modèle de Courson et de Saint-Jean de Borga. Les gens lui ont dit, bon, bah, tu peux toujours essayer. Et ça a eu un succès mais absolument fou. C'est devenu la plante de la fête la plus courue de tout Rhône-Alpes et même au-delà. Donc, c'est un exemple. Et maintenant, ça ne se passe plus du tout dans le petit centre. Ça se passe dans le château de Saint-Priest, qui est la mairie de Saint-Priest. Voilà.
Alors, on a j'avais deux questions. J'avais troc de plantes aussi. Tu as vu ça? Moi, j'ai vu ça dans.
Oui, le troc de plantes, oui. C'est au point de départ de l'aventure, par exemple, de Courson. Oui, parce que à Courson, qui était. Alors là, on est entre gens de château et de parc historique. Et ils sont fédérés dans une association qui s'appelle l'Association des parcs botaniques de France.
Bon, et la deuxième chose, tu as aussi, dans les associations, il y en a une quand même qui croque de pommes.
Alors, il n'y a pas seulement, effectivement, parmi les plantes cultivées, il y a les plantes fruitières et potagères. Et ça joue un rôle très très important. Et les foires des plantes sont aussi bien des foires de potirons, par exemple. Le nombre de foires de potirons en France est remarquable.
Cucurbitacées
pour faire plus. Mais ils gardent souvent l'appellation de potiron qui couvre tous les cucurbitacées parce que le potiron a un charme plus singulier que le terme plus savant. Donc il y a les associations potagères, il y a les fameux les fameuses associations des croqueurs de pommes. Qui couvrent toute la France.
Et donc, qui ont des vergers conservatoires.
Et qui ont été les premiers vergers conservatoires, qui ont donné l'idée des vergers conservatoires à des institutions qui ont repris. Mais c'est les croqueurs de pommes qui ont été les premiers à créer des vergers conservatoires. Dans la France de l'Est.
Alors, je voudrais vous poser une question sur le succès de cette fête organisée par un centre socioculturel qui devient un événement plus important. Est-ce que les habitants de Saint-Priest s'y sont retrouvés ou est-ce que c'est devenu quelque chose pour les Lyonnais et plus pour les habitants du lieu?
Je pense que les habitants du lieu sont très contents que cette foire, et ils sont là, absolument. Mais c'est devenu beaucoup plus étendu que ça. Et les pépiniéristes, puisque... Le principe de la foire des plantes, c'est que les pépiniéristes spécialisés arrivent avec leur production. Et là, on voit bien qu'ils viennent de toute la région et même au-delà. Voilà.
Oui, il y a quand même une composante qui revient, c'est l'association patrimoine monumental et patrimoine végétal. Un des exemples emblématiques, c'est la fête des roses à Chaly, qui a décliné de manière thématique en province, un peu partout. Très souvent, c'est le parc d'un château qui est un peu un lieu qui attire la curiosité et qui sert également de plus attractif. Enfin.
Tout à fait. D'autant plus que ces châteaux, souvent, sont devenus des institutions un peu publiques parce que tous les propriétaires de châteaux ne peuvent pas maintenir leur parc et leur château. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que ces foires expositions ont eu comme initiateurs des gens extrêmement variés et se placent et se situent dans des lieux extrêmement variés eux aussi. Ça peut être des places de village, ça peut être un centre socioculturel comme dans l'exemple de Saint-Priest, ça peut être toutes sortes d'institutions aussi de parcs, les parcs régionaux en ont été le siège également. Il y a une extrême diversité de ce genre de manifestations.
Tu voulais poser une question?
Oui, c'est... Oui, un petit peu. Oui, il y a dans une commune à côté de Saint-Prié, qui est Vaux-en-Velin, qui a été, dont on a beaucoup parlé il y a quelques années parce que c'était le lieu des préférés des amateurs de rodéo de voiture, il y a une fête du cardon.
Ah oui.
Une fête du cardon qui a été initiée par des agriculteurs qui étaient les maraîchers, les derniers maraîchers de Montréal.
Et je serais
très content de votre question parce que la fête du cardon est une fête que les Lyonnais ignorent, et qui est, enfin, ont ignoré longtemps, qui est une fête spécifique de Vaux-en-Velin. Et dans lequel les Vaudois vont beaucoup.
Et le cardon est une spécialité purement lyonnaise. Personne ne l'ignore.
Les Niçois ne seraient pas contents de t'entendre.
Et les poireaux de Solez, vous connaissez les poireaux de Solez? C'est une autre banlieue lyonnaise. Il y a un poireau célèbre.
Alors, donc, en fait, on a vu un peu... la rareté source de prestige, mais aussi la mise en scène. Alors, dans la campagne de Tous nos désirs, comment se met en œuvre ces questions de mise en scène, par exemple, autour. Tu as parlé de fête de la transhumance.
Oui, la transhumance, c'est la fête où il y a plus d'ethnologues que de moutons.
Voilà. Non, c'est la fête de la transhumance, c'est une particularité dont on n'a pas de série.
Non, mais il est provocant.
C'est une fête traditionnelle, monsieur, la transhumance, tout le monde connaît, qui a été inventée en 1990 par une collaboration entre la DRAC, à l'époque, j'étais conseiller d'ethnologie à la DRAC, et puis un certain nombre de militants du développement rural dans la région du Diwa, dans la Drôme. Donc aujourd'hui, c'est une fête dont tout le monde ignore, en fait, qu'elle va bientôt fêter ses 30 ans. Alors, et donc l'idée qui est derrière la fête de la transhumance, c'est effectivement de mettre en scène, hein, pour le public. Alors le Diwa, c'est une région dans laquelle il y a beaucoup de néo-ruraux qui sont souvent à l'origine de la redynamisation du territoire. Et donc l'idée, c'est de remettre en scène véritablement la traversée de la ville de Die par les moutons, et pendant que les moutons traversent la ville de Die, ils poussent plein de crottes, etc. Il y a toute l'ambiance rurale, campagnarde, paysanne qui est là, et puis on associe ça à tout un tas d'actions culturelles, d'animations culturelles, cinéma, conférences, expositions artistiques, etc.
Nord-Sud aussi.
Oui, oui. Alors, festival Nord-Sud, Est-Ouest.
Il y a aussi des démonstrations de chiens de berger.
Voilà, il y a plein de choses.
Donc, de tontes aussi.
C'est intéressant dans la fête de la transhumance, c'est effectivement cette mise en scène. Le patrimoine, ça existe d'autant mieux que ça se montre, que ça se partage et que ça peut se voir.
Et ça peut susciter des résistances aussi.
Alors bien sûr, en particulier à Die, des résistances de certains agriculteurs, parce que, bon, faut savoir que les transhumants ne sont des agriculteurs qui viennent de la Croix, donc du sud de la France, qui vont traverser en train, qui arrivent à Die, et puis qui montaient leurs moutons dans la montagne du Diwa, du Vercors, hein, et les agriculteurs locaux se sont pendant très longtemps opposés, hein, à ces transhumances, parce que les bergers transhumants... Les moutons étaient réputés détruire les champs, manger l'herbe là où il ne fallait pas. Donc il y a eu un conflit très important pendant des années entre les transhumants et les agriculteurs locaux. Et en fait, je ne sais pas si c'est une résistance, mais la fête de la transhumance, d'après mes souvenirs, ont contribué à apaiser les relations entre les agriculteurs locaux et les transhumants.
Alors, si je vous écoute bien... Tu as parlé des noms avec le Mézin, on parle de circulation aussi avec le réseau et même la fête de la transhumance, hein, puisque aujourd'hui, si on ajoute, il y a de grosses difficultés, par exemple, pour protéger des produits issus des appellations d'origine de ces mouvements de transhumance. Il y a une question qui traverse les trois ouvrages, qui est celle de l'ancrage territorial, de la circulation, des échelles et des réseaux. Est-ce que vous pouvez en revenir un petit peu aussi là-dessus?
Ben peut-être tu commences, puisque...
Tu y étais.
Je pense que je parle
beaucoup. Mais après, vous en
parlez. Ah, d'accord.
Sur le local, c'est vrai que moi j'ai souvent été, enfin, soupçonneux du risque de la patrimonialisation de fabriquer du nous exclusif, hein, du nous et eux. Et je pense que ça peut être un risque, une patrimonialisation défensive, quoi. Mais l'expérience m'a montré que c'était rarement le cas. Que généralement, la patrimonialisation, comme tu disais, elle oblige à rassembler et elle n'est pas exclusive, rarement exclusive. Je crois. Mmh. Enfin, alors qu'on pouvait le craindre, on pouvait craindre des mouvements comme il y a pu y avoir un mouvement régionaliste. Enfin, je dirais, si tu n'es pas basque, si tu ne parles pas breton ou corse, tu n'as rien à faire ici. Enfin, on a eu ça et le mouvement patrimonialisation n'a pas eu ces travers-là, pour moi.
J'ai l'impression, en tout cas, réfléchir sur les échelles géographiques du patrimoine, c'est intéressant, parce que justement, ces associations sont tellement diverses que souvent je me dis que ce serait intéressant de faire une carte de ces militantistes, enfin, de ces associations militantes du patrimoine.
On ne peut plus la faire, c'est...
Tu veux dire qu'elle couvrirait toute la France. Oui, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Moi, je pense qu'il y a, au contraire, des superpositions dans beaucoup d'endroits et des vides ailleurs aussi, sans doute. Oui, Emmanuel.
Je voudrais intervenir sur deux aspects. Je pense que la question du sol mériterait d'être abordée, parce que suivant la région dans laquelle... Du sol au sens vraiment
la terre.
Du terme.
Le terrain.
Ce qu'on observe, moi j'en suis à ma troisième acquisition de maison de campagne, et de famille, j'ai trois maisons dans trois régions très différentes, avec un mélange nord-sud-est-ouest. Et en fait, je suis toujours très surprise de voir que tous les membres de ma famille, qui sont maintenant tous des citadins, par contre, je prends cet exemple personnel, mais je le trouve assez révélateur, ont du mal à comprendre que ce qui existe dans une région n'est pas transposable dans une autre. Et ça, on sait très bien quand on achète une maison de campagne, on est un citadin, on ne connaît rien au départ, la manière dont ça va pousser dans un jardin, ben, on se dit que ce qu'il y a dans les pépinières va forcément pousser dans son jardin. Alors, en fait, il faut tout simplement regarder ce qui pousse dans la nature, comprendre, faire au besoin des analyses de sol, se rendre compte si on est en terre acide, en sol calcaire, etc. C'est l'histoire du breton qui s'installe en Alsace et qui croit faire pousser des hortensias et qui est tout surpris que ça ne marche pas. Et moi, je voudrais savoir quel est le lien avec le développement des pépinières. Ce que le rêve que vendent les pépinières, qui continue encore, il me semble aujourd'hui à un retard par rapport, c'est peut-être absurde de dire ça, mais un retard par rapport à ce que les gens ont envie d'avoir dans leur jardin. Et voilà, ça m'interpelle. Je voudrais savoir un peu
c'est
une question pour Madame Berg.
Oui, c'est une question pour Martine.
La deuxième point que je voulais dire, je pense malgré tout que, alors c'est peut-être pas clivant, c'est peut-être pas exclusif, mais plutôt collectif, on est bien d'accord, sauf que je pense qu'il y a encore un clivage ville-campagne. Moi je suis alsacienne d'enfance, on va dire, je fais pousser le géranium sur mon balcon, dans mon milieu c'est très plouc, quand j'en parle dans les colloques sur les jardins, des grands spécialistes de l'histoire des jardins, pour eux, je suis vraiment une ploupe parce que j'aime les géraniums.
Moi aussi, donc, j'aime bien. Ça chasse une goutte.
Donc ça, ce sont des clivages quand même qui m'interpellent et donc peuvent souffrir des gens qui aiment profondément les fleurs. Moi, je continue à aimer profondément les géraniums et à souffrir complètement le fait géraniums.
Ça a été très très violent, le passage de l'un à l'autre des modèles. Et la critique du géranium a été d'une virulence, mais complètement démesurée, quoi. Alors, c'est vrai que ces annuelles, elles ont le désavantage de venir d'ailleurs, d'avoir été très travaillées par l'horticulture, mais on pourrait considérer aussi que c'est patrimonial. Enfin, que ce travail horticole, voilà, enfin, ça dépend de qu'est-ce que c'est le patrimoine, voilà. Mais en tout cas, effectivement, il y a eu une grande violence au moment du changement de modèle, Et tout, effectivement, on ne peut plus voir. Les géraniums, vous n'en voyez plus. C'est, enfin, il y a certaines régions où ça demeure, effectivement. Hein.
Mmh. Oui,
en Beaujolais, je peux
oui,
te
oui.
dire.
Oui, tout l'est de la France. Oui, mais les concours, dans les Landes, je sais qu'il y a certains villages qui ont été. Parce que c'est très aussi annuel, oui. Couleur vive dans les Landes. Il y a des villages qui ont été disqualifiés par les nouveaux critères des concours, mais de façon très.
Le
Conseil supérieur des villes et villages fleuris a fait un virage à 180 à un moment. Et ça a été très très violent. Moi, j'avais assisté toi aussi à ce genre de conflit à l'intérieur des gens qui concouraient et des instances à l'échelon national qui étaient. Les conflits étaient violents, vraiment.
Et je pense que tout ce nouveau rapport à la nature, il est d'origine urbaine quand même. Vous parlez du sol, il y a 20 ans, on n'aurait même pas parlé de sol, parce qu'une plante pouvait pousser dans un pot, dans un parterre, mais le sol, la notion de sol, enfin, je pense qu'on est à un moment aujourd'hui où on a une conscience très forte vis-à-vis de la crise environnementale. Elle a démarré dans ces années 90. Je pense que c'est ça qui explique aussi... ce tournant en faveur des choses plus naturelles et patrimoniales, c'est la crise écologique, quoi. Donc, et ça, c'est une origine urbaine. Et du coup, effectivement, tout ce qui n'évoque pas la nature, comme le géranium, on ne veut plus voir. Dans les années 70, on conseillait à l'entrée des villes d'installer une alternance d'arbres verts et panaché blanc, parce que justement il fallait marquer la rupture avec la campagne. Voilà, on n'est plus du tout dans la même chose, quoi.
C'est l'alternance du prunus,
prunus pissard et érable,
et l'érable
panaché, négondo panaché.
Négondo panaché.
Michel, non, mais c'est la madame qui donnerait la parole après.
Oui, Michel, vous voulez. Oui, c'est un peu pour répondre. Il y a une. Sur la question du local et de la diffusion, la question que vous posez est intéressante parce qu'elle montre aussi qu'il y a des formes de patrimoine qui ne bougent pas. Il y a une dimension très installée, très localisée. Le sol, ça se transporte. Non, le sol, la nature du sol, la biologie et la physique, la chimie du sol, ça ne bouge pas. Donc il y a une forme d'incarnation du patrimoine dans des lieux. Mais quand on parle des produits de terroir, on est exactement à l'inverse. Des choses qui vont... par nature circulée. Un produit de terroir, aujourd'hui, il n'existe que parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le terroir qui vont l'acheter. C'est le produit de terroir. Donc il y a toujours cette dynamique dans le patrimoine entre ce qui est incarné localement, territorialement, très fortement, et la circulation. Et s'il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de patrimoine.
Il y a un exemple dans votre livre qui est très très intéressant, c'est celui du foie gras.
Voilà.
Parce que le foie gras, il est né dans le Gers, mais c'est en Vendée qu'on fait le plus de foie gras. Vous l'ignoriez peut-être.
Oui.
Voilà. Vous saurez tout sur le foie gras dans le
Non, sous forme de boutade. Je suis alsacienne, j'habite à Paris, j'ai une résidence en Alsace, une au Pays Basque, et je constate déjà l'étape suivante, à savoir que l'on trouve charmant que je continue à orner mes balconnières de géranium. C'est une forme de reconnaissance par rapport à mes racines. Et dans les concours locaux, le géranium est tout à fait la norme encore, en particulier dans les villages du vignoble, très, très riche en très architecture, etc.
Très touristique.
Voilà, très touristique. Et là, il n'y a aucun état d'âme. Hein.
Bien sûr.
Ensuite, je voudrais aussi dire que j'ai toujours connu des pépiniéristes qui vous conseillaient, qui disaient telle plante est pour son acide, telle fleur, vous ajoutez de la terre de bruyère, etc. Et dans mon enfance, dans mon petit village, le catalogue Léon Pain arrivait régulièrement dans la plupart des boîtes aux lettres. Donc il n'y avait pas que les plantes et les fleurs locales dans les jardins.
Ben oui, de même que Rustica,
le magazine.
La revue Rustica circule dans la France entière.
Ouais, c'était, je n'en ai pas parlé, moi, c'est parce que une jeune femme joyeuse avait fait une thèse sur les haies fleuries. Et qu'est-ce qu'il en est maintenant? Parce que justement, c'était un moment où... à force d'avoir des tuyas dans toutes les, autour de toutes les maisons individuelles, c'était parti de Rennes. Enfin, c'était intéressant aussi.
Elle a publié son livre.
Elle a publié son livre.
Ah, elle a publié son livre. Et ça s'appelle Le bocage pavillonnaire et c'est passionnant.
Voilà, c'est passionnant.
Pauline Frileux.
Frileux, j'ai dit joyeux, c'est frileux. Et c'est passionnant, voilà. Donc, c'est pour ça que je pense aussi que là, on voit une évolution des pépites. Alors, sur l'instigation aussi, bon, d'agronomes, mais des services municipaux. Parce qu'aujourd'hui aussi, de plus en plus dans les villes, on interdit le traitement phytosanitaire, hein. Y compris avec les problèmes que ça pose. Moi, je vois avec à Lyon, les gens qui se plaignent des plantes nuisibles, hein, allergiques, ou qui pensent que les pelouses ne sont pas bien tenues. C'est-à-dire qu'il y a toujours aussi ce côté d'une nature en ville qui est plus policée, et quand on passe à une nature, entre guillemets, naturelle, ça fait des ordres, voilà. Et bon, je me souviens, il y a très longtemps, j'étais parti en vacances avec un agriculteur. On ne voyait pas la chose, on ne voyait pas les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il voyait les terres mal tenues. Il y avait des chardons, du coup, moi j'habite la campagne maintenant, parce que celui qui a des chardons, il embête tous les autres. Et donc, il faut que son terrain soit propre, empêcher de nuire. Voilà, donc voilà.
Est-ce qu'on pourrait aborder quand même un dernier point, puisque l'heure tourne, sur ces questions amateurs, professionnels, les scientifiques aussi qui interviennent dans ces processus de patrimonialisation, quel savoir on mobilise et quel type de savoir-faire.
Moi, j'avais été dans mon enquête pour ce livre Vers patrimoine. J'avais accordé une importance particulière aux collectionneurs, parce que les collectionneurs représentaient les plus érudits. Ils étaient extraordinairement érudits. D'ailleurs, certains scientifiques considéraient certains des amateurs comme plus érudits qu'eux dans certaines spécialités végétales. Et donc, il y avait cette importance très grande de la collection, qui était aussi bien la collection des potirons que la collection des cucurbitacées, pardon, que la collection des pommes. Par exemple, effectivement, les pommes qui ont été cultivées dans la France entière, c'est probablement l'espèce végétale qui était la plus répandue dans toute la France, mais sous un nombre de variétés extraordinaires. C'est ça qui avait été après tout le ressort du mouvement associatif, notamment des croqueurs de pommes.
Michel, tu voulais réagir ?
Oui, mais d'une certaine façon, ce que je disais en introduction, la publication de cet ouvrage est un manifeste, on peut dire, j'exagère un petit peu, pour qu'on reconnaisse la variété de tous les acteurs qui interviennent sur le patrimoine. Alors, on a beaucoup parlé, on a beaucoup opposé le patrimoine bottom-up et top-down, enfin, celui qui vient du haut, celui qui vient du bas. Je ne sais pas s'il faut penser les choses comme ça. On est beaucoup plus aujourd'hui en train de réfléchir sur des versions, sur des conceptions plus
croisées,
intégratives,
comment
on dit un mot, où il y a tout un tas de partenaires qui coproduisent le patrimoine des institutions, des savants, des amateurs, et ça se fait beaucoup dans cette circulation inclusive, cherchez-moi. Alors, simplement, je voulais simplement rajouter une chose. Il y a quand même des différences importantes. Effectivement, les amateurs ont toujours eu une place très importante dans les inventaires du patrimoine végétal depuis le XVIIIe siècle. Si on prend le contre-exemple de l'archéologie, il y a eu énormément d'archéologues amateurs. Mais il y a eu une pression du milieu professionnel pour empêcher les amateurs de fouiller. Donc là, il y a eu un mouvement inverse qui s'est fait dans les années 90. Et sur le patrimoine, les patrimoines populaires, hein, les traditions, etc., il y a eu un travail difficile qui a été fait au sein de la mission du patrimoine ethnologique pour faire comprendre aux ethnologues que les patrimoines populaires, ce n'était pas forcément eux qui en étaient les spécialistes, mais qu'il fallait aussi peut-être inverser la donne et faire en sorte de faire comprendre que les acteurs, ce que l'UNESCO appelle les communautés, étaient les véritables détenteurs de ces patrimoines, et que ce n'était pas l'ethnologue qui écrivait son livre.
Le mot « amateur » est devenu péjoratif avec la professionnalisation de l'activité scientifique, notamment. Hein. Donc l'amateur, c'était celui qui n'avait pas les diplômes qu'il faut. Bon, ou dans le milieu culturel aussi, l'amateur, c'est celui qui...
n'est pas professionnel.
Qui n'est pas professionnel, voilà. Donc il n'est pas quelque chose. Alors que l'amateur est celui qui se consacre, enfin qui aime étymologiquement, qui se consacre à sa passion. Et
Je pensais aussi, comme je vous disais, amateur professionnel, c'est à la fois dans le processus de professionnalisation, de patrimonialisation, mais je pensais aussi par rapport aux variétés, à ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité domestique, c'est-à-dire les liens qu'on commence à faire entre le jardinier et l'agriculteur. Et je pense que dans la question des produits de terroir qu'on a là aussi, on a un passage parfois d'un savoir domestique à une professionnalisation, c'est-à-dire des professionnels qui vont produire. Donc c'était aussi dans le processus de production, dans ce jeu entre des acteurs professionnels et amateurs.
Avec des résistances que tu as très bien décrites dans un article sur... les pâtisseries corses racontent.
Oui, parce que on a tout un processus et un des articles de ce livre de patrimonialisation, enfin de volonté de mise en scène et d'offre aux touristes des pâtisseries corses. Et les touristes arrivent en Corse l'été alors que le brunch n'est plus produit puisque le brunch est produit. Les chèvres sont taries et les brebis au moment où les touristes viennent. Et donc aussi cette forme de résistance, de dire ça ne se produit pas toute l'année, même si on doit pouvoir l'offrir aux touristes, voire aux anciens Corses qui reviennent en vacances et qui veulent manger leur madeleine de Proust, qui est le brocio corse. Donc il y a cette forme de résistance et puis il y a celle aussi du vécu, c'est-à-dire c'est ce que l'on fait pour des fêtes de famille, pour des moments importants dans la
mais intime,
et qui ne sont pas de la mise en scène ou de ce que l'on donne à voir aux touristes ou ce que l'on va exporter entre guillemets ou vendre au loin, de ce que tu disais de la circulation aussi des produits. Donc je pense que il y a aussi ce jeu là à la fois de résistance sur c'est à nous, et c'est à nous ici, selon nos saisons, on le donne à voir pour faire du développement aussi économique. Et je voulais ajouter à ce que vous disiez tout à l'heure sur la question du sol aussi, qui sont des choses que l'on a pu travailler un petit peu aujourd'hui sur les débats autour des associations, des acteurs de la préservation de la biodiversité domestique. Et qui vont expliquer, en termes de réseau, toujours dans ces idées d'ancrage et de circulation, qu'une variété locale n'est plus locale. Aujourd'hui, on ne l'appelle pas locale. On l'appelle une variété domestique, et qu'on va l'adapter au local, en lien avec le changement climatique, etc. Donc on a cette idée d'adaptation, de circulation pour adapter, et j'ai vu des producteurs qui disaient qu'on peut faire de la tomate en montagne, au bout de X années, elle va s'adapter. Et donc vous voyez, c'est pas d'ici, mais on va en faire quelque chose d'ici, et je pense que c'est quelque chose qui est...
Le patrimoine s'adapte,
et je pense qu'on est complètement dans cette idée d'ancrage, circulation.
L'histoire de l'acclimatation est fondamentale.
Tout à l'heure, les géraniums,
Voilà. Là, on commence à faire pousser du quinoa à grande échelle en France. Oui. Dans 50 ans, tout le monde pensera que le quinoa est
oui, bien sûr, oui, voilà.
C'est le cas avec le kiwi déjà.
Le maïs, ça, c'est le plat traditionnel.
Mais, vous oubliez les mellifères, les affreuses plantes exotiques invasives. Qui empêtent nos protecteurs de la nature endémique. Juste un dernier point, c'était sur professionnels et amateurs. J'ai été directeur aussi d'un autre ouvrage, ça s'appelle « Le rôle des amateurs dans les sciences naturalistes ». Parce que dans les sciences naturalistes, donc sauvages, hein, parce que les écologues sont surtout occupés de la nature sauvage, on ne peut rien faire sans le concours des amateurs qui ont...
Qui inventorient.
Je me suis allé alors après au Conservatoire National Botanique du Massif Central. C'est extraordinaire. En fait, le travail, ils ont tout numérisé. Ils ont numérisé les ouvrages des sociétés savantes du Bourbonnais et de ils ont tout numérisé ça. Ils continuent à inventorier et on appuie sur un bouton et on voit les plantes. Alors, je ne dirais pas quel nom, hein, Plantus rarissimus. On appuie en 90, en 89 et on voit la remontée vers le nord. Enfin, on voit le changement climatique. Il y a un travail de, moi j'appelle ça, de numérisation de la nature considérable et qui est le fait d'amateurs qui sont en train de se professionnaliser. Il y a quand même de plus en plus d'associations.
Je crois que c'est Benoît de l'Étoile qui parlait des auxiliaires bénévoles. Voilà. Ils étaient considérés comme tels très longtemps.
Oui. Mais au muséum, le muséum avait un réseau d'amateurs éclairés. On appelle amateurs éclairés.
Il y a toujours.
Je pense qu'on pourrait le retrouver sur le patrimoine bâti aussi. Je pense
que pour les plantes de jardin, ça a été les amateurs qui ont été pionniers. C'est ça qui était intéressant dans cette histoire.
Ben, il ne faut pas oublier que pour un sociologue dans les années 90, s'occuper du patrimoine de la nature, c'était s'occuper des petites fleurs, de ceux qui s'occupaient aux petites fleurs, aux papillons, aux vieilles pierres et aux vieux papiers. Alors qu'il y avait tellement d'autres problèmes plus importants.
Moi, je partageais mon bureau avec un collègue qui travaillait sur de nobles sujets, l'État avec un grand E, le pouvoir avec un grand P, et qui avait une façon délicieuse de me dire... Ma chère Françoise, comment vont vos petits jardins? C'était pas un sujet légitime à l'époque.
Non, mais je pense qu'une fille,
tu étais dans un labo quand même un peu. Il faut dire que tu étais dans un labo.
Un peu huppé. À l'école des études.
Oui, mais. Au centre de sociologie-là.
C'est vrai que.
Ah oui.
Ça faisait un peu ouvrage de dame.
Est-ce que être payé à se promener dans la nature, à regarder les petits oiseaux, ça n'est pas travailler, c'est pas du travail.
Ah oui.
Il y a ça aussi, je pense. Ce côté, on n'est pas plongé dans les livres, on n'est pas dans l'intellect.
Est-ce qu'il vous reste des questions?
Est-ce qu'il y a une place pour les jardins ouvriers dans votre démarche ou dans les jardins citadins actuels?
Alors, moi je peux vous dire qu'il n'y en a pas ici.
Les Portugais.
En 1990, j'étais encore à la DRAC, en 98, on a financé un travail d'inventaire des patrimoines de l'immigration. Et dans cet inventaire, enfin, c'est pas un vrai inventaire, on identifie un certain nombre de patrimoines liés à l'immigration, et parmi eux, il y avait les jardins ouvriers, en particulier les jardins ouvriers de Saint-Étienne, qui étaient des lieux de mixité sociale et ethnique très importants, en particulier entre les Portugais, les Italiens et les Maghrébins.
Et ils sont aujourd'hui protégés dans les documents d'urbanisme, alors que dans les années 70, ils n'avaient été pas.
Il y a un responsable par municipalité.
J'ai publié aussi un livre qui s'appelle Les jardins ordinaires. Il y a un chapitre sur la naissance des jardins ordinaires.
Une question? Oui.
Alors, avant de poser ma question, un petit peu de publicité. Il y a une revue qui s'appelle In situ, revue des patrimoines, dont un numéro récent a été consacré aux jardins collectifs et à leur patrimonialisation. Donc, si ça vous intéresse, c'est gratuit, c'est en ligne. In situ, patrimoine.
Dont je me permets de dire que j'ai.
Mais oui, dites-le. Ça ne pas dire. Qui montre au niveau scientifique de la revue. Moi, j'avais tout à l'heure, vous avez évoqué les moments de rupture qui enclenchent des processus de patrimonialisation. Et ça me faisait penser à une affaire qui a été relayée par les médias la semaine dernière d'un maire d'une commune rurale qui a été excédé par les conflits de voisinage dus à des néo-ruraux qui ne supportaient pas les bruits de la campagne. Et en particulier, il s'agissait d'un coq, visiblement, qui est un peu zélé et qui réveille tous les matins de bonne heure ces gens-là, et qui se tournait vers le ministère de la Culture pour savoir si on ne pouvait pas patrimonialiser les bruits de la campagne. Et je voulais savoir quelle était votre réaction face à cette...
Moi, je dirais, ça m'a souvent été posé, cette histoire de conflits d'usage. D'abord, je pense que ces gens qui se plaignent, moi, je ne les appellerais pas des néo-ruraux, je les appellerais plutôt des nouveaux habitants. Il y a une nuance entre néo-ruraux qui viennent à la campagne avec l'envie de se fondre, et puis des nouveaux habitants qui viennent là aussi parce que c'est moins cher, donc, et qui ne connaissent rien de la campagne, alors que j'appellerais néo-rural celui qui a envie de s'y fondre. Hein. Donc, voilà. La deuxième chose, c'est qu'il y a toujours des procéduriers un peu partout. Mais quant à la question...
Les coqs, c'est quand même... Moi, je connais un arbre sous mes fenêtres où se perchent les poulets et les coqs. Je peux vous dire que il faut être de très bonne composition.
Je pense que ce ne sont pas que les nouveaux habitants. J'ai mon frère qui a fait tuer le coq de mon père.
Ah oui,
c'est pas un nouvel habitant en rue. Voilà, à cause du bruit, je pense que ça va au-delà de... Il y a le rural enraciné, il n'existe plus.
Je ne pense pas que c'est que de la représentation. Là. Ouais.
Dans cette histoire, je pense que les gens, ils n'avaient pas seulement acheté une maison de campagne, ils avaient acheté le silence. Et puis, ils se réveillent le premier matin, c'est comme dans le fameux...
Oui, alors il y a pas mal à voir ça.
On achète une maison de campagne, on l'a choisi.
Les cloches aussi.
Au moment où il y a la grève et l'avion. Et puis, le premier jour,
Je pense que c'est une question aussi de représentation différente et de qualité de vie et de rapport à la maison, au collectif, enfin l'individuel au collectif aussi, qui peut se jouer un peu autour de ça. Hein.
Ce qui m'intéressait, c'était par rapport à l'extension du champ patrimonial, patrimonialiser des bruits de la maison, l'ambiance sonore.
Ouais, voilà. Je dirais, je trouve que votre question, il y a un côté un peu blagueur, mais elle est très intéressante parce qu'en fait elle pose véritablement la question de ce que c'est que le patrimoine.
Oui.
Et je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui continuer à définir le patrimoine à partir de des objets qui sont patrimonialisés. C'est vraiment, André le disait un petit peu, c'est une démarche, c'est un regard, c'est une relation qu'on va avoir avec le monde, d'où on procède et ce à quoi on est attaché et ce qu'on veut conserver pour le transmettre. Alors, est-ce que la collectivité autour du maire, est-ce que l'ensemble du village souhaite conserver les champs du coq? La question se pose comme ça. C'est pas au ministère de la Culture d'aller patrimonialiser, c'est les habitants qui doivent se prononcer sur les champs du coq.
En Suisse, je crois, c'est un village où les habitants avaient suivi le maire pour protéger les cloches des vaches.
En fait. Ah oui, bien sûr.
Il y a eu un référendum récemment à Colmar parce qu'un nouvel habitant se plaignait de ce que les cloches sonnent le dimanche.
Voilà. Oui,
et ça a été massif comme vote en faveur de la perdurance.
Et là on voit bien que le son des cloches relève d'une appropriation patrimoniale.
Donc il faut
renvoyer
à Colmar, c'est ça.
C'est vrai que ça va dans le sens de ce que cette proposition du député sur d'inscrire à l'inventaire national les bruits ruraux. Dans la liste, il y a bien sûr le chant du coq, mais l'aboiement du chien, le bruit du tracteur, le son de la cloche. Donc effectivement, c'est assez intéressant par aujourd'hui pourquoi une proposition comme ça émerge et est reléguée dans les médias nationaux, etc. Non seulement parce qu'elle est portée par un député, mais c'est aussi parce que c'est comme l'expression d'un monde rural qui revendique son droit d'exister, pardon, dans le conflit rural-urbain qu'on connaît aujourd'hui, qui est assez exacerbé. Donc c'est vrai que c'est tout à fait symptomatique et intéressant comme initiative.
Les Suisses ont une très bonne idée aussi. Vous savez que les Suisses ont été les premiers à réaliser l'inventaire du patrimoine culturel et matériel dans les années, il y a quelques années. Et certains avaient eu l'idée d'inscrire au PCI le secret bancaire.
Moi, j'ai une question, parce qu'en fait, je ne comprends pas très bien le titre. J'étais interloquée en fait, par le titre de cet instantané « Nature versus patrimoine ». Parce que je ne comprends pas très bien, en fait, ce titre-là. Parce que j'aurais pensé, moi, en fait, je m'attendais... Enfin, patrimoine naturel au pluriel ou quelque chose comme ça. Et je ne comprends pas très bien le sens de cette opposition. C'est-à-dire, est-ce que c'est nature versus patrimoine au sens... le patrimoine bâti, le patrimoine historique, la nature comme étant en deçà du patrimoine. En deçà ou au-delà du patrimoine. C'est cette
opposition
qui, pour moi,
ne faisait pas sens.
Parce que pour moi, la notion de patrimoine naturel, comme l'a rappelé monsieur à travers notamment par les PNR, fait que c'est une notion qui est complètement, enfin en tout cas partagée dans. Par, on va dire, les professionnels, etc. Donc, je ne comprenais pas pourquoi aujourd'hui, des ethnologues allaient le problématiser comme ça.
Je pense qu'effectivement, ce n'est pas une notion, le patrimoine dans d'autres lieux ou dans d'autres espaces n'est pas pensé en termes de nature.
C'est la notion de patrimoine, voilà.
C'est ça. C'est oui, donc, il y a le patrimoine et la nature, oui. Mais il ne peut pas y avoir de patrimoine naturel. Oui. Il y a la civilisation et puis la nature, et, mais il n'y a pas, voilà, c'était un peu dans cette... on voulait débattre de cette idée-là.
Le titre doit être provocateur, et là, c'est réussi.
Je dirais que c'est une posture de citadin.
Donc, largement partagé.
Eh bien, je ne sais pas.
Non, je pense que c'est occidental. Je pense que c'est le paradigme sur lequel nous avons tous vécu, qui est d'opposer la société et la nature, ouais, et que c'est fini, on ne peut plus. Voilà. Enfin, je dirais, on ne peut plus opposer les deux, on ne peut plus penser. Aussi. Il faut penser les deux en même temps.
Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par ici?
Ici, parce que justement, dans d'autres contrées, la patrimonialisation de la nature pose des problèmes aux acteurs qui vivent dans la nature ou pour la nature. Ah, oui. Donc, c'est pas que la nature qui... Comment ça, c'est toi qui connais ces plantes-là, c'est moi qui connais ces plantes-là, qu'est-ce qu'on va les mettre au patrimoine immatériel de l'humanité, ou on va le faire partager par les bio, enfin c'est toute la bio, le biopouvoir.
La biopiraterie.
Et qui est en train de se faire. Enfin,
d'accord, dans ce sens-là.
En Guyane française, il s'est passé quand même un gros problème sur qui était un... les équipes de chercheurs ont été retrouvées... possibilité de plantes qui pouvaient soigner la malaria, et on a accusé les chercheurs de pirater. Et on ne peut pas breveter la nature. On ne peut pas avoir de brevet, même si c'est pour le bien de l'humanité, sur la nature. Donc ils avaient déposé, l'équipe de l'IRD avait déposé un brevet pour pouvoir, à partir de cette plante, dégager un médicament pour le palu. Ils ont été accusés de biopiratage.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce que moi je travaille dans le monde des musées, tout en occupant un jardin. Et en fait, quand on devient conservateur, on est une école et on nous apprend que le patrimoine dont on s'occupe est inaliénable.
Ça
nous appartient, vous n'avez pas le droit de le vendre, vous n'avez pas le droit de l'exploiter, vous n'avez pas le droit de vous enrichir sur ce dos-là.
C'est un commun.
C'est pourquoi le patrimoine végétal posait à des problèmes particuliers, parce que le patrimoine végétal, par essence, il est le contraire. Il est périssable. Il est remplaçable,
il circule,
il rentre pas du tout dans les normes du patrimoine tel qu'il a été. C'est un paradoxe vivant, le patrimoine végétal.
Et puis il est le produit de la domestication depuis au long cours, surtout donc d'une interaction entre l'homme et son milieu. Et donc c'est déjà de la culture. Enfin, c'est en ça que c'est intéressant. C'est à la fois du patrimoine naturel et culturel.
Je pense que l'erreur, c'est que c'est
pas... La notion de variété, c'est pour ça très intéressant.
C'est pas le patrimoine qui est inaliénable. C'est les collections des musées, c'est le monument historique. Voilà, c'est pas le patrimoine en tant que tel. Le patrimoine, il est aliénable comme tout. Comme quand on confond patrimoine et monument historique, il y a encore beaucoup de gens qui font ça, mais c'est une erreur.
Alors, ce qui me frappe dans l'histoire, c'est que...
en patrimonialisant, on donne un, comment dire, on donne une espèce de fausse ancienneté. C'est un petit peu comme un antiquaire qui a envie de vous inventer, mais un peu de fausse saleté dans les creux, des faux trous de verre, et donc le truc passe pour un meuble du 19e, alors qu'en fait il est tout récent. Il y a quelque chose de ce type. Et par exemple, vous disiez que la pomme, si on vous dit, citez-moi un fruit, tout le monde cite la pomme. Mais en fait, c'est faux, parce que il y a très 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 longtemps, le fruit le plus répandu était la poire. Et au 15e siècle, au 14e siècle, je crois que je ne dis pas de bêtises historiquement, mais je me souviens avoir lu ça et avoir été très frappée, quand on disait à quelqu'un, cite-moi un fruit, on disait, citez d'abord la poire. Donc ça, je trouve ça assez... je pense que vous avez l'air un peu sceptique de ce que
je dis. Je suis un tout petit peu sceptique.
Ouais, je ne retrouve pas ma source, mais je me souviens avoir été très frappée quand j'avais lu
ça. Parce que c'était une pomme dans la Bible, pas une poire.
Oui, en même temps, les traductions de la Bible, vous savez...
Ah, ça, je ne sais pas, oui.
Elles sont très occidentales.
Non, moi, je pense que c'est vrai que les poiriers... beaucoup plus vieux que les pommiers.
Oui, sauf que la pomme se conserve mieux que la poire.
Ce qui est dommage, le patrimoine au niveau industriel, on voit peu de choses. Et pourtant, ça représente la science.
Oui,
tout à fait.
Oui,
bien sûr.
On voit vraiment peu de choses.
Y a des publications.
Il y a des choses dans ma petite vallée.
La science et la pierre, c'est pas pareil.
Dans ma vallée, entre Lyon et Saint-Étienne, il y a une association qui a démarré très très tôt, toujours des amateurs, qui voyaient l'industrie foutre le camp, qui ont sauvé plein de... avant qu'elle parte dans la benne, qui ont sauvé des trucs de la mine, des trucs de sidérurgie, et qui ont mis très longtemps à être reconnus parce que dans cette vallée en proie à la désindustrialisation, la première chose auquel pensaient les élus, c'est qu'il faut enlever toutes ces traces du passé ancien, minier, etc. Et
verdissement des terrils.
Voilà, les terrils. Donc, ils ont mis très longtemps à être reclus. C'est seulement les dernières années, tu connais bien, les Serpilles.
Ouais, tu t'exagères un peu.
Des années 80, ils ont commencé à faire.
Oui, c'est ça, ils ont été reclus assez vite.
Oui.
Mais oui, donc le patrimoine industriel, si.
Et c'était aussi la vocation des écomusées de montrer à la fois la pierre, les outils, mais aussi les gestes.
Ah oui, oui.
Par exemple, une raffinerie, c'est comme un bateau avec des vagues immobiles.
Vous pouvez passer le concours de conservateur en option patrimoine scientifique industriel. Ça existe officiellement, il y a très peu de candidats par an.
Oui, il n'y a pas de.
Mais au même titre que vous le passez en histoire de l'art, en histoire historique. Donc ça existe vraiment, c'est très reconnu maintenant.
Il y a une association nationale qui s'occupe du patrimoine industriel qui est très active.
Elle est claire. Patrimoine industriel classé.
Il y a une revue, l'archéologie industrielle.
On a un petit ouvrage aussi sur le patrimoine. On a un disque considérable sur la mémoire industrielle et le patrimoine.
Voilà, regardez.
Il est là ?
Oui, je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais on peut toujours les poser autour d'un verre et autour des livres qu'on peut acheter, puisque notre libraire, et vous retrouver vient d'arriver. Je vous remercie de cette séance et je remercie les orateurs. C'était fabuleux, bien vivant. Et du coup, j'achèterai des géraniums.
La défense.